du CNRM, donc à Météo France. Il a dirigé aussi le centre d'études de la neige à Grenoble. Il a participé, donc il a coordonné un des chapitres du dernier rapport spécial du GIEC sur océan cryosphère. Et donc je lui donne tout de suite la parole.
Merci beaucoup Jean-Michel. Est-ce que vous m'entendez?
Oui, très bien.
Ok, très bien. Eh bien, bonjour à toutes et tous. Je vais effectivement donner quelques éléments au sujet de l'évolution des risques naturels à la montagne et en rapport avec le changement climatique dans le cadre de cette matinée. Donc oui, diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà. Et comme l'a annoncé Jean-Michel, en fait, je me suis beaucoup appuyé sur les conclusions du rapport spécial Océan et Cryosphère du GIEC, qui est paru en septembre 2019. Donc c'est un rapport dont j'ai mis le lien ici si vous souhaitez aller le consulter directement. Et c'était un rapport qui traitait à la fois de l'évolution physique, en fait, des conditions météorologiques sous l'influence du changement climatique, et puis de ses impacts, dans la mesure où c'est un rapport spécial qui groupe différents groupes de travail du GIEC, avec en particulier un chapitre sur les zones de montagne, également un chapitre sur les régions polaires, et puis une bonne part du rapport qui était également consacrée aux enjeux de l'océan. La diapo suivante. Je vais faire un petit rappel justement sur le GIEC. C'est un organisme qui est de plus en plus connu, mais on réalise parfois que son mandat et son rôle n'est pas toujours parfaitement maîtrisé par l'ensemble des acteurs. C'est un groupe d'experts, le GIEC, qui est une convention entre ses États membres. Hein. Les membres du GIEC sont des États. Et donc, présente comme étant membre du GIEC, soit c'est qu'il n'a pas bien compris, soit c'est qu'il se prévaut d'une qualification qui est erronée. Et donc le GIEC, voilà, c'est vraiment une organisation sous l'égide de l'OMM, l'Organisation météorologique mondiale, et du Programme des Nations Unies sur l'environnement, le PNUE, dans le cadre d'une convention cadre. Et l'objectif du GIEC n'est pas de produire des connaissances, mais de synthétiser les connaissances existantes au sujet de l'évolution passée du climat, ses impacts, et puis les approches possibles pour réduire les impacts et les risques. Diapo suivante. Je ne la vois pas arriver. Voilà. Donc le principe du GIEC, un peu le cadre méthodologique dans lequel il inscrit ses travaux, a été formalisé au gré des années en clarifiant de plus en plus justement les différentes composantes du risque climatique et des différents impacts, en séparant l'aléa, la vulnérabilité, l'exposition. Et donc quand on parle de risque naturel en montagne, j'y reviendrai un certain nombre de fois ce matin, on ne peut pas se contenter d'étudier uniquement l'évolution de l'aléa, mais il faut aussi se préoccuper de l'évolution de l'exposition et de l'évolution de la vulnérabilité, c'est-à-dire la façon dont un aléa donné peut avoir un impact sur un enjeu socio-économique donné. Alors le GIEC travaille avec différents groupes de travail, donc le groupe 1 sur les bases physiques, le groupe 2 sur l'impact et la vulnérabilité. Et le groupe 3 sur l'atténuation, en fait, qui traite principalement des émissions et des méthodes pour les réduire. Et puis il y a des rapports spéciaux multigroupes, et c'était le cas du rapport Océan Cryosphère, justement, qui a combiné des experts à la fois du groupe 1 et du groupe 2 pour traiter de façon intégrée à la fois des enjeux d'aléas et d'évolution des conditions climatiques, mais aussi l'évolution des impacts directement. Et au passage, je signale que le groupe 1 va rendre son rapport principal et il devrait être rendu public début août 2021. Donc, soyez à l'affût de cette sortie-là qui est annoncée aux environs du 9 août. Et puis, le groupe 2 est en train de finir de la rédaction de son rapport qui devrait sortir début 2022. Et c'est malheureusement une version intermédiaire du rapport du groupe 2 qui a été rendu public frauduleusement par l'AFP il y a quelques jours. Et qui donc a donné l'occasion d'une certaine exposition médiatique, même si en fait ce rapport n'était pas encore fini, et c'est encore une version de travail. Ouais, pour replacer dans le contexte vis-à-vis de la communication récente au sujet de ces rapports du GIEC. Diapo suivante. Voilà, donc en lien avec ce que je viens de dire, hein, le processus d'élaboration d'un rapport du GIEC, c'est une construction assez longue et assez détaillé en fait entre des scientifiques qui assurent la maîtrise d'œuvre, qui assurent en quelque sorte la production d'un rapport, et puis les gouvernements qui commandent au GIEC des rapports pour éclairer leurs connaissances sur l'évolution du climat et ses impacts. Et donc il y a un dialogue étroit entre à la fois les scientifiques et les gouvernements qui commandent ces rapports avec un certain nombre d'itérations. Et je veux aussi ici signaler que le processus d'élaboration d'un rapport du GIEC, c'est un processus qui est ouvert et transparent, mais qui s'inscrit dans une certaine confidentialité, puisque c'est un rapport avec un certain impact et qui s'inscrit justement dans le cadre de l'objectif étant d'avoir le meilleur état possible des connaissances. Eh bien, il y a plusieurs itérations avec des experts scientifiques qui peuvent s'inscrire lors des phases de revue intermédiaires du rapport, donc en téléchargeant le rapport et en pouvant faire des commentaires. Ceci dit, le processus, comme je dis, est à la fois ouvert et transparent. Quasiment n'importe qui, dès lors qu'il se prétend avoir une expertise scientifique, peut avoir accès aux versions intermédiaires du rapport. Mais normalement, la règle, c'est de ne pas rendre publiques ces versions intermédiaires, puisque ce sont encore des versions de travail qui permettent d'aboutir, in fine, à la meilleure estimation possible de l'évolution climatique. Voilà. Donc c'est un processus qui s'étale sur 2 à 3 ans, et donc qui fait l'objet d'un travail considérable de la part de l'ensemble des auteurs. Diapo suivante. Alors, juste un rappel hein, sur l'évolution climatique avant d'entrer dans le détail de ces impacts sur les régions de montagne en matière de risques naturels. Donc, on a cette augmentation de température qui a avéré au niveau planétaire depuis la moitié du 19e siècle, avec aujourd'hui plus de 1 degré de réchauffement si on regarde les dernières années par rapport à la référence qui est le pré-industriel, donc 1850 à 1900. Donc, ça, c'est en moyenne au niveau mondial en utilisant plusieurs sources d'informations. Et sur la diapo suivante, vous avez la répartition de ce réchauffement au niveau des différents pays du monde, qui montre que ce réchauffement est sans ambiguïté partout dans le monde, avec justement des expressions parfois un petit peu différentes d'une région à l'autre, mais globalement un signal très clair et sans ambiguïté sur l'augmentation de cette température au niveau planétaire. Diapositive suivante. Voilà. Alors, ça se traduit dans les régions de montagne par un recul des glaciers. Il en sera question tout à l'heure. Donc, ici, 2 images qui montrent l'évolution du glacier de la Pilette dans les écrins entre 2 dates à peu près séparées d'un siècle. Et puis, l'évolution de l'enneigement qui est également relativement bien documentée, avec ici l'évolution de l'enneigement au col de Porte à côté de Grenoble, qui montre cette réduction de l'enneigement moyen d'une année à l'autre, même si l'enneigement reste avant tout très, très variable, évidemment, d'une année sur l'autre, et qui va de pair avec une augmentation de température qui gouverne justement l'évolution de l'enneigement. Diapo suivante. Voilà. Alors, en termes de projection pour le futur, je rappelle juste qu'on ne peut pas faire de prévision climatique puisqu'on ne maîtrise pas du point de vue scientifique l'ensemble des déterminants de l'évolution climatique. Le principal de ces déterminants étant l'évolution des concentrations de gaz à effet de serre. Et donc, c'est pour ça qu'on parle de projection qui permettent d'analyser pour différents niveaux, pour différents scénarios de concentration de gaz à effet de serre, quels seront les impacts sur l'évolution du climat et sur un certain nombre de secteurs en aval. Et donc ici, vous avez les différents scénarios qui sont utilisés, qui correspondent à différentes trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre. Alors, les 2 extrêmes étant le scénario en bleu, qui correspond à une réduction massive des émissions de gaz à effet de serre atteignant à peu près la neutralité carbone d'ici 2050, et puis en rouge, un scénario de forte augmentation des émissions tout au long du 21e siècle, donc qui est un scénario de fortes émissions. Donc, sur la diapo suivante, on voit les conséquences de ce réchauffement. On voit qu'en termes de température planétaire, eh bien évidemment, le réchauffement est amené à se poursuivre, quoi qu'on fasse, d'ici la moitié du 21e siècle, avec des impacts et des augmentations de température qui seront d'autant plus fortes que les émissions de gaz à effet de serre seront fortes. En termes d'enneigement, ici en bas à gauche, sur la neige dans le massif de la Chartreuse, à 1500 mètres, qui est relativement représentatif de la moyenne montagne en France, on voit que l'évolution de l'enneigement est elle aussi quasiment la même, quel que soit le scénario, d'ici la moitié du 21e siècle. En revanche, on a une stabilisation dans le cas d'atteinte de la neutralité carbone au niveau atteint en 2050. Et puis, par contre, une poursuite de la baisse de certains enneigements pour la fin du 21e siècle. Donc ça montre que l'évolution de l'enneigement et des risques naturels qui sont liés à l'enneigement sont relativement réversibles, c'est-à-dire que si le climat se stabilise à un certain niveau, eh bien l'enneigement se stabilise à ce même niveau. C'est pas du tout la même chose pour les glaciers. Ici à droite, vous avez une figure issue du rapport SROC qui montre l'évolution des glaciers en Europe au cours du XXIe siècle avec les mêmes codes couleurs. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que quelle que soit finalement l'ampleur de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, y compris dans l'atteinte de la neutralité carbone et de la stabilisation du climat au niveau atteint à peu près en 2050, on voit que les glaciers vont continuer de perdre de la masse puisque la stabilisation du climat se fera à un niveau qui sera très défavorable à l'évolution des glaciers. Et donc finalement, même dans le meilleur des cas, en fait, les glaciers vont poursuivre leur récession tout au long du XXIe siècle. Et en fait, la réduction de l'ampleur des émissions de gaz à effet de serre ne pourra, dans une certaine mesure, que limiter l'ampleur de la baisse du recul des glaciers. Diapo suivante. Voilà. Et donc, c'est juste une diapo en passant pour expliquer que l'évolution du climat, donc j'ai montré jusqu'à présent des évolutions de conditions moyennes, et en fait, l'évolution de ces conditions moyennes, en fait, elle a non seulement des conséquences sur le climat moyen qui est défini sur des durées de 20 à 30 ans, mais aussi sur l'ampleur et la récurrence et la sévérité des événements rares, intenses, voire extrêmes. On en a aujourd'hui un bon exemple en Colombie-Britannique où on atteint des températures inégalées à ces latitudes. Ça, c'est une manifestation parmi d'autres du fait qu'on a de plus en plus d'événements de forte chaleur et on a également de moins en moins d'événements de basse température. Et ça, il faut bien prendre en compte cette dimension de décalage des conditions météorologiques sous l'effet du changement climatique. C'est ça qui pilote la plupart des impacts, en particulier en montagne. Ce n'est pas l'évolution du climat moyen qui est au premier ordre, vraiment ce qui détermine l'évolution, c'est vraiment le fait que les conditions météorologiques, la gamme des conditions météorologiques se décale, et donc c'est ça qui a le plus d'impact en matière d'impact sur un certain nombre d'événements. Les diapos suivantes. Voilà, alors dans le rapport du GIEC, il y a un certain nombre de synthèses sur l'impact du changement climatique en montagne. Donc vous avez un certain nombre d'aléas, un certain nombre d'impacts qui sont listés ici, et ça c'est des impacts observés avec différentes régions du monde et différents types d'impacts qui sont listés. Diapo suivante, on a un zoom sur justement les différents risques naturels qui ont été traités dans le cadre de ce rapport. Tous ne l'ont pas été, mais un certain nombre, à la fois les inondations, les glissements de terrain, les avalanches, et on voit que les cases jaunes correspondent à des augmentations de fréquence ou d'impact ou de sévérité de ces risques naturels. Donc on voit que dans la plupart des cas, les événements documentés sur le passé montrent une augmentation des risques naturels en montagne, avec dans certains cas des réductions ou des évolutions dans diverses directions, parce que certains risques, comme ce sera montré un peu plus tard, n'ont pas la même évolution en fonction de l'altitude en particulier. Certains voient une augmentation à haute altitude, une baisse à basse altitude et réciproquement. Donc c'est relativement subtil quand on rentre dans le détail. Sur la diapositive suivante, vous avez un zoom sur les territoires qui vous intéressent le plus, j'imagine les Alpes et les Pyrénées, où on voit effectivement que, alors déjà ce sont des régions du monde par rapport à d'autres régions du monde qui sont relativement bien documentées, ce qui est représenté ici par les petits points noirs, et on a des évolutions d'augmentation et de diminution qui sont contrastées, puisque, encore une fois, à certaines altitudes, à certains moments de l'année, on a plutôt une augmentation d'un certain nombre de risques naturels, notamment les avalanches, comme ce sera présenté tout à l'heure, et puis à d'autres niveaux d'altitude, on a plutôt une baisse, notamment de ceux qui sont liés avec l'évolution de l'enneigement. Voilà, donc ça c'est toujours à prendre en compte, c'est que on ne peut pas résumer en quelques mots l'évolution des risques naturels en montagne sous l'effet du changement climatique, puisque ce sont des questions qui sont complexes et qui croisent un certain nombre d'aléas différents. Diapo suivante. Voilà, alors je vous encourage vraiment, si le sujet vous intéresse, à aller consulter en fait les résumés pour décideurs des rapports du GIEC. C'est des documents qui sont relativement concis, compacts, pour lesquels on essaie de faire vraiment des efforts de synthèse et de concision pour justement permettre d'avoir une information la plus juste et la plus précise possible pour pouvoir justement prendre la mesure des changements. Donc ici, vous avez deux extraits de ce décideur du rapport au GIEC. Donc le fait que le dégel du parc et le recul des glaciers diminuait la stabilité des versants de haute montagne avec un degré de confiance élevé, il en sera question un peu plus tard aujourd'hui, et puis le fait qu'au cours des dernières décennies, l'essor démographique, le tourisme et le développement économique ont accru l'exposition des personnes et des infrastructures aux aléas naturels, c'est-à-dire que les impacts sont gouvernés non seulement par l'évolution de l'aléa, mais par aussi l'évolution de l'exposition et de la vulnérabilité. Et donc certaines catastrophes ont d'ores et déjà été attribuées, c'est-à-dire qu'on a pu mettre en évidence le fait que le changement climatique a eu des conséquences sur l'évolution, en particulier de la cryosphère, donc les glaciers, le pergélisol, le manteau neigeux, et ces évolutions ont, dans un deuxième temps, eu des conséquences sur, sur la fréquence ou la sévérité d'occurrence de certains aléas et de certains risques. La diapo suivante, ça c'est pour les projections. Dans vos zones de montagne, les projections indiquent que le recul des glaciers et le dégel du pergélisol continuent à réduire la stabilité des versants, avec une augmentation du nombre et de la superficie des lacs glaciaires, et donc tous les risques naturels qui sont induits justement par ces vidanges brutales, dont il sera question aussi un peu plus tard aujourd'hui. Et donc ces crues dues aux vidanges brutales, où vous avez de pluie sur neige, les glissements de terrain, les avalanches, la synthèse qu'on en a faite dans ce rapport, pour laquelle on s'est énormément interrogé sur la façon la plus concise et la plus compacte de le faire référence, c'est de dire qu'avant tout, ces événements, on ne s'attend pas à de nouveaux événements qui n'ont jamais été observés, mais par contre, on s'attend à les voir apparaître dans des nouveaux secteurs, en particulier différentes altitudes, et à différentes périodes de l'année. Il en sera question tout à l'heure pour la partie avalanche. Diapo suivante, donc c'est sur la partie justement sur les risques, non seulement sur l'aléa. Donc ces changements vont augmenter les risques sur les infrastructures, les biens culturels, le tourisme, les activités récréatives, sous l'égide en particulier d'évolution sur non seulement l'aléa, mais aussi l'exposition accrue des personnes et des biens dont on pressent sur la base des informations disponibles que l'utilisation des terrains de montagne est amenée à croître dans un certain nombre de régions de montagne du monde. Alors pas forcément partout en France, mais là c'est vraiment une vision mondiale qui est proposée. Et ce qui était aussi indiqué, c'est que les techniques actuelles de réduction des risques perdront en efficacité du fait de l'évolution du caractère des aléas. C'est-à-dire que si les aléas changent de caractère, tant du point de vue des zones concernées que de leurs caractéristiques physiques ou ce genre de choses, eh bien, il faut en tenir compte pour mettre à jour les méthodes de réduction des risques. Et donc, c'est de ça aussi qui sera question ce matin. Alors, évidemment, des ambitions de stratégie de réduction des risques, d'adaptation, pourraient aider à contrer cette hausse des impacts. mais il faut, ça demandera vraiment des efforts importants en tenant compte évidemment de l'augmentation de l'exposition et de la vulnérabilité à ces aléas dans ces zones de montagne. Diapo suivante. Voilà. Donc, donc ça c'était pour la version très courte. Si maintenant vous vous intéressez de façon plus détaillée au contenu de ce rapport, je vous engage à aller le télécharger et à le consulter. Donc, il y a une partie entière, hein, de ce rapport, justement, de ce chapitre 2 sur les glissements de terrain, les avalanches et les risques de crues. Et glissement de terrain, c'est à prendre au sens le plus large possible, y compris les chutes de blocs. Donc, sur la diapo suivante, vous avez cette fois-ci un aperçu qui vous donne à la fois la taille du rapport, et en fait, c'est relativement. Alors, ça fait peur quand on le regarde comme ça, mais en fait, c'est relativement compact et relativement concis, puisque ça ne traite de l'ensemble des risques pour l'ensemble de la planète. Et donc, il y a toute une synthèse, en fait, de l'état des connaissances sur ces questions-là, que je vous encourage vraiment à les consulter si le sujet vous intéresse. Et évidemment, cette synthèse s'appuie sur un grand nombre d'études scientifiques qui ont été produites, alors en France comme ailleurs, mais en France, on n'a pas à rougir de la production scientifique qui est faite sur l'évolution des risques naturels en montagne et qui vraiment a permis, dans certains cas, d'apporter vraiment des contributions déterminantes pour ce rapport. Diapo suivante. Voilà. Alors dans le rapport, je vais pas avoir le temps de rentrer dans tous les détails, mais on s'est attaché à produire une figure de synthèse, en fait, sur les
Cette réunion est en cours d'enregistrement.
Voilà, on s'est attaché à produire. De ces risques de façon graphique, avec un nombre d'intérêts dans la région, à la fois la représentation des aléas et puis l'évolution des impacts et de l'exposition, donc avec différentes évolutions temporelles où on voit l'évolution des caractères des aléas, puis l'évolution de l'utilisation de ces terrains de montagne et des zones qui sont en aval. Et donc si on passe maintenant en revue, mais je vais pas le faire de façon très détaillée, mais on a un certain nombre de terrain ou d'un certain nombre d'aléas qui sont traités, donc notamment tout ce qui concerne la déstabilisation des pentes à haute altitude, avec un certain nombre de facteurs qui seront détaillés de façon plus approfondie plus tard dans cette matinée. Diapo suivante, où on voit justement des exemples par le passé de ces événements de déstabilisation qui ont fait à la fois beaucoup parler d'eux et puis qui ont fait beaucoup de dégâts. Donc ici, voilà notamment l'épisode de Bondo en Suisse en 2017. Donc vous avez quelques illustrations ici. Diapo suivante, c'est l'évolution. Voilà, ici encore un exemple de déstabilisation à la fois de glaciers, donc à la fois au Caucase, ces dernières décennies, donc qui ont vraiment marqué les esprits et dont certaines analyses permettent de voir que, dans une certaine mesure, elles ont pu être favorisées par l'évolution climatique. Diapositive suivante, vous avez l'évolution du risque avalanche. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails puisqu'il y a un exposé complet sur la question juste après. Sur la question des crues, alors au sens large, hein, à la fois les épisodes de pluie sur neige, à la fois les crues de haute montagne, à la fois les questions de crues de vidange brutale de lacs glaciaires, donc autrement appelé les GLOF, on voit qu'il y a déjà des événements particulièrement marquants et dont il sera sans doute question dans l'exposé d'Olivier Gagliardini dans un instant. Donc on en voit un exemple sur la diapo suivante. Voilà, avec cet épisode en particulier très, très dévastateur en Inde en 2013, avec des phénomènes en cascade qui sont particulièrement marquants. La diapo suivante. Voilà. Et puis enfin, l'évolution justement sur les infrastructures et sur les systèmes sociaux, dont il faut tenir compte absolument si on veut vraiment tenir compte de l'évolution du risque au sens large, c'est-à-dire non seulement l'aléa, mais aussi l'exposition à la vulnérabilité. Diapo suivante. Voilà. Donc en conclusion, et tendre un petit peu, élargir un petit peu sur ce rapport qui traitait essentiellement de l'évolution de la cryosphère, hein, de montagne, c'est-à-dire les risques qui sont liés à l'évolution du manteau neigeux, du pergélisol, des glaciers. Alors il y a d'autres risques naturels en montagne, notamment ceux liés aux incendies, ceux qui sont liés aux crues, qui ne sont pas forcément toujours en rapport avec des composantes cryosphériques. Donc là, c'est quelque part un cadre un peu plus élargi, qui d'ailleurs fait l'objet d'un chapitre spécial du prochain rapport du GIEC du groupe 2, donc celui qui sortira début 2022, qui étendra en fait à d'autres risques justement ce travail spécifique sur la montagne qui a été fait dans le rapport SROC. Mais d'ores et déjà, on peut affirmer que les observations, les modèles de climat indiquent des changements à long terme de la distribution des valeurs rares et extrêmes, à la fois en hydrométéorologie de montagne, donc ce que je n'ai pas illustré spécifiquement ce matin, mais qui est connu par ailleurs, avec des conséquences sur les caractéristiques de fréquence et d'intensité des aléas. Du point de vue des précipitations, je ne suis pas rentré dans ces détails-là ce matin, mais en fait, on a des tendances de fond qui sont relativement difficiles à détecter, même si dans certains cas, on voit des augmentations d'intensité de précipitations estivales en particulier, et puis des estimations, des augmentations de phase des précipitations. Il pleut de plus en plus pendant l'hiver, il neige de moins en moins à basse altitude, et ça a des conséquences aussi pour les régimes hydrologiques et pour les crues. Le signal de température est en revanche beaucoup plus clair et sans ambiguïté, avec des implications, comme je disais, sur les précipitations neigeuses et l'état de la neige au sol. Les enjeux en montagne, comme je disais, c'est vraiment des enjeux qui sont souvent multivariés. J'ai donné quelques exemples un peu rapidement justement sur des événements en cascade, en fait, où on a une première déstabilisation de pente ou une avalanche qui peut ensuite déclencher en cascade un certain nombre d'autres aléas. Et donc, les conditions météo extrêmes jouent dans un certain de façon l'autre, et qui cette évolution cumulative finalement se superpose à des facteurs de déclenchement qui sont plus soudains, et donc on est obligé d'articuler l'ensemble des échelles de temps, à la fois le temps court et le temps long, quand on s'intéresse à l'évolution climatique en montagne et des impacts sur les risques naturels. Voilà, donc ça, ce sont tous des sujets qui sont l'objet de travaux importants dans la communauté scientifique, en particulier en France, mais pas que, et qui se fait beaucoup dans un cadre inter- et transdisciplinaire, donc en associant aussi les acteurs de la gestion des risques et l'ensemble des parties prenantes. Et ça fait partie justement des travaux qui sont favorisés par le travail du PARN, le pôle alpin d'études et de recherche sur la prévention des risques naturels, qui depuis plus de 30 ans en fait associe justement des acteurs à la fois de recherche et des acteurs des territoires pour justement mieux comprendre quels sont les enjeux sur le terrain et essayer de dimensionner et de mettre en œuvre des programmes de recherche spécifiques pour mieux comprendre l'évolution des risques dans toutes ces dimensions et mieux optimiser et prévenir justement ces risques naturels en faisant évoluer les doctrines et les méthodes d'alerte des populations. Voilà, je vous remercie beaucoup et je suis à votre disposition en cas de questions. Merci bien.
Merci beaucoup, Samuel.